Picard.
Tu montes, on monte. Tu descends, on descend. Tu plonges dans la rivière, on se noie ensemble.
Le soir, c'est Couleur Tropicale.
Dire les raisons que nous avons de nous révolter.
Génération consciente.
Seule la lutte libère.
Vous avez commencé par éveiller ma curiosité.
Couleur Tropicale.
Mais là, vous captez mon attention.
Couleur Tropicale avec Claudicia.
Et Mathieu Salabert, Annabelle Jogamandi, Léa Pereira Zanotto, Céline Guillaume, bonne arrivée la famille. Bonne arrivée Céline.
Salut Claudie.
Vous n'avez pas oublié que demain, Héritier Watanabe fera sa libre antenne Génération Consciente. Il répondra donc à vos questions. Pour cela, vous devez nous les adresser dès maintenant sur notre WhatsApp au 00 33 6 37 42 62 24. Et c'est également ce numéro que vous avez fait, pour lequel que vous avez utilisé afin de faire acte de candidature, afin de vous entretenir en direct avec Lilian Thuram, notre invité. Depuis qu'il est définitivement rentré au vestiaire, l'ex-footballeur n'a de cesse de combattre le pire des fléaux auxquels est confrontée l'humanité. Et cela, dès les premières oppositions entre groupes humains, c'est le racisme. Lilian Thuram consacre le clair de son temps, de son énergie, à le combattre avec la pédagogie grâce à sa fondation. Combattre le racisme est une chose. L'expliquer, l'autopsier, l'analyser, en comprendre les racines, les mécanismes, sont les meilleures armes pour, avec toute l'utopie nécessaire, tenter de l'éradiquer du cœur de l'humanité. Lilian Thuram s'attelle à cette tâche, non pas dans l'espoir d'un règlement immédiat, car ce n'est pas un sprint mais une course de fond, mais de la disparition du racisme tant il est ancré dans les imaginaires des uns et des autres. Mais en inscrivant dans l'actualité des questions sur un tableau républicain où les plus belles formules d'égalité citoyenne sont visibles, comme sont visibles les discriminations sociales, raciales, la France ruse avec ses principes d'égalité républicaine. Et puisque la parole se libère, puisque les propos les plus abjects sont acceptés, voire sacralisés dans certains médias occidentaux, Lilian Thuram porte la pointe dans la plaie afin de la guérir et non pour ajouter aux polémiques ou créer plus d'incompréhension dans un monde déjà si troublé. Et pour cela, il évoque nos imaginaires, ceux qui sont à reconstruire. Il convoque le passé, l'histoire, afin de bâtir, ou pour certains, de rebâtir. Pensée blanche, c'est le nouvel ouvrage de Lilian Thuram, paru aux éditions Philippe Rey. Lilian Thuram, merci d'être avec nous par Skype.
Ben écoutez, tout d'abord, merci de l'invitation. Je suis très très heureux d'être avec vous, de pouvoir échanger sur ce sujet.
Pensée blanche, c'est le titre donc de ce nouvel ouvrage. Ce titre-là est-il fait pour frapper les esprits ou pour mieux comprendre la situation ?
Ben en fait, ni l'un ni l'autre, c'est-à-dire que c'est une réflexion, c'est dire que cette pensée blanche est une pensée politique qui a été construite par une minorité de personnes. Ce sont des choix politiques qui hiérarchisent les gens, qui divisent les gens selon leur couleur de peau. Et donc, cette hiérarchie a duré pendant des siècles, cette hiérarchie existe encore aujourd'hui. Et pour pouvoir dépasser ces problématiques du racisme, il faut avant tout pouvoir comprendre.
Le sous-titre du livre, « On ne naît pas blanc, on le devient », le blanc dont il est question est celui qui n'a peut-être pas conscience de son héritage, la partie la plus obscure pardon, de cet héritage, celle qui a déshumanisé des millions de gens, et cela durant des siècles, et a forgé l'esprit du blanc, son imaginaire, comme je disais tout à l'heure.
Ben écoutez, c'est avant tout pour dire que nous utilisons des catégories, mais nous ne connaissons pas l'histoire de ces catégories. Et être blanc, ce n'est pas une réalité, c'est avant tout une pensée. Et très souvent, dans les écoles, quand je vais voir les enfants, je fais un petit jeu. Et je leur demande qui est blanc, qui est noir, les enfants, la main. Et je leur dis, ah bon, vous êtes blanc, mais mutant. Et donc, je prends une feuille de papier blanche comme ça, je leur dis « Quelle est la couleur de cette feuille ?» Elle me dit « Bah, elle est blanche. » Et je mets cette feuille près des enfants et je leur dis « Mais est-ce que vous êtes de cette couleur ?» Mais les enfants me disent « Non. » Je leur dis, mais pourquoi vous utilisez blanc-blanche? Elle me dit, bah, je sais pas. Je dis, ah bon? Elle me dit, bah, habitude. Je dis, voilà, il faut questionner les habitudes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, effectivement, on dit qu'il y a des blancs, il y a des noirs, il y a des. Mais en règle générale, on ne sait pas que c'est avant tout une construction. Par exemple, lorsqu'on dit que quelqu'un est noir, vous allez voir qu'on dit que Barack Obama est noir, que Yannick Noah, moi-même, vous-même, et pourtant nous n'avons pas la même couleur. Donc on voit bien qu'effectivement, c'est une construction liée à une histoire. Et c'est avant tout pour diviser et pour exploiter des êtres humains. Ouais. Donc l'idée, c'est comprendre comment ça s'est mis en place pour sortir de ces prisons identitaires et pour se positionner en tant qu'être humain avant tout.
Mais
c'est-à-dire qu'il faut aborder l'histoire du monde,
oui,
en la voyant en tant qu'être humain. Parce que si vous la voyez en tant positionnée dans une catégorie, peut-être que vous avez une lecture faussée.
C'est Pascal Blanchard qui dit que le blanc et le noir n'existent pas, ce sont des inventions, c'est ça?
Non, mais ce sont des inventions, ah, parce oui, qu'avant tout, nous sommes des êtres humains.
Bien sûr.
C'est comme la catégorie homme-femme. Ben, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que lorsqu'on vous met dans une catégorie, c'est qu'on attend certaines choses de vous. Et pire encore, c'est que parfois, vous acceptez cette catégorie, vous défendez la catégorie sans savoir, sans connaître l'histoire de ces catégories.
Ouais.
Donc voilà pourquoi nous devons enrichir notre sens pour devenir plus libre et comprendre qu'effectivement, dès le départ, lorsqu'on a hiérarchisé, lorsqu'on a divisé les êtres humains, c'est à des buts politiques et économiques pour exploiter les gens.
Alors, Lilian, on va se faire comme dans la vie. Bon, moi, puisque depuis tout à l'heure, je te tutoie, soyons comme nous le faisons habituellement. On va essayer d'aller très vite parce qu'il y a énormément d'auditeurs qui souhaitent te poser des questions. Et nous avons tant de choses à te dire et à te faire entendre également.
Ok, avec plaisir.
Je voudrais quand même souligner l'exemple de la feuille blanche, Lilian, que tu viens de donner. Je te dis tu aussi, avec tout le respect. Mais... il y a dans cet exemple-là toute la pédagogie, toute la minutie et toute la démonstration qu'on retrouve dans ce livre, La pensée blanche. Donc je voulais vraiment le souligner. La pensée blanche, tu le dis aussi dans cet essai, c'est pas l'exclusivité des blancs finalement, parce que les noirs peuvent l'intérioriser, cette pensée blanche. Est-ce que toi-même, à certains moments, tu as pu être traversé par cette pensée blanche? Et comment est-ce qu'on lutte contre cette pensée blanche quand on n'est soi-même pas blanc? Ah ben oui.
Ça, c'est une très bonne question. Tout d'abord, merci. Effectivement, la pensée blanche... c'est une pensée monde, parce qu'effectivement, on a construit une norme blanche. Moi, je suis né aux Antilles, à la Guadeloupe, et effectivement, en Guadeloupe aussi, on a intériorisé cette pensée. Par exemple, lorsque je discutais de ces sujets avec ma maman, elle me disait que lorsqu'elle était jeune, on lui faisait comprendre que c'était préférable d'aider un mari qui aurait la peau claire, ou avoir des enfants qui auraient la peau chapée, la peau échappé du noir, la peau moins noire. Et donc, effectivement, nous sommes, peu importe nos couleurs de peau, nous portons en nous, effectivement, cette pensée, parce que c'est une pensée qui est devenue monde grâce ou à cause, en tout cas, des colonisations. Parce qu'il n'y a pas très longtemps encore, dans les écoles, par exemple, en 1950, on apprenait dans les écoles qu'il y avait une race supérieure, la race blanche. Donc, ça veut dire que peu importe votre catégorie, vous avez été éduqué dans ce sens. Et donc, il faut faire très attention à comprendre. Par exemple, lorsque je discutais avec une fille camerounaise, elle me disait « Tiens, c'est vrai ce que tu me dis, Lilian, au Cameroun, quand un enfant fait des bêtises, on lui dit « Tu as le cœur noir comme ta peau. » C'est d'une violence totale. Et effectivement, on ne se rend pas compte, même sur le continent africain, effectivement, il y a des femmes qui pensent qu'être belle, c'est être plus claire de peau. Et elles vont se blanchir la peau. Mais elles se blanchissent la peau aussi, pourquoi? Parce que les hommes sont plus souvent attirés par les femmes qui ont la peau plus claire. Et ce n'est pas seulement sur le continent africain, que ce soit en Asie, en Inde, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire qu'on a construit la norme que la beauté serait blanche. Et donc, ça veut dire que même nous, des personnes non blanches, nous avons été éduqués dans ce sens et je pense qu'il est très intéressant de comprendre ce mécanisme pour pouvoir la dépasser.
Tu dis d'ailleurs, dans l'ouvrage, tu cites Martin Luther King, James Baldwin, et tu dis que ces personnages-là, des femmes et des hommes hein, d'ailleurs, ces personnages-là ne seraient pas ce qu'ils sont s'ils n'avaient pas dû, dans leur histoire, dans leur vie, dans leur existence, donc, se mettre face à ce racisme, à cette discrimination. Donc, quelles que soient les façons et les formes, on est victime de cela. On a intériorisé à la fois parce qu'on est dans un combat, et parfois on a intériorisé parce qu'on est dans une forme de... On est victime, et une victime parfois inconsciente.
Oui, effectivement, parce qu'encore une fois, nous sommes éduqués à vouloir ressembler à la norme. C'est ça qui est super dangereux.
C'est ça.
C'est-à-dire que dès enfants, certaines personnes, des personnes non blanches, reçoivent comme message qu'il y a une norme et il faut aller vers cette norme-là. Et donc, il y a certaines personnes qui tombent dans le piège et qui se renient eux-mêmes. Et je pense que moi qui ai été joueur de foot, sportif de haut niveau, la première des choses qu'un enfant a besoin, c'est développer une bonne estime de lui. Ça, c'est fondamental. Et donc, il faut faire très attention à comprendre cette pensée-là pour pouvoir la refuser, pour pouvoir la rejeter, parce que cette pensée-là vous infériorise. Parce qu'en fait, les personnes blanches, historiquement, ont été éduquées à se penser mieux. C'est culturel. Et les personnes non blanches, eux aussi, ont reçu ce message en disant que être blanc, c'est mieux. Et personne ne se l'avoue. C'est-à-dire que ça peut se cacher dans des choses subtiles, mais en même temps visibles. C'est-à-dire que moi, très souvent, en discutant avec des enfants un peu partout dans le monde, je leur demande de me décrire Dieu. Et bien, très souvent, les enfants, peu importe leur couleur, me disent que tu es.
Ben oui.
Mais c'est extrêmement violent quelque part.
Mais toute l'iconographie, justement, religieuse. Religieuse, chrétienne, est très clairement blanche, oui.
Ouais, ceci explique. Ben oui, mais les gens ne se rendent pas compte de ça.
Ouais.
Et moi, je reste persuadé, je le dis, si demain, dans une église près de chez moi, j'habite à Paris, les gens rentrent et tout d'un coup, tous les personnages représentés sur les vitraux sont noirs. Croyez-moi, je ne suis pas sûr que ça ne crée pas de problème.
Lilian, on t'a demandé de choisir quelques chansons afin justement de rythmer ce moment en ta compagnie. Tu as choisi, parmi d'autres, Burna Boy. Pourquoi ce choix?
Parce que ça me paraît évident, parce que je trouve qu'il est important, lorsque vous êtes artiste, de porter des messages, en fait.
Ouais. Et ce titre, Another Story,
voilà.
Et il y a un message dans Another Story, évidemment.
Ben oui, c'est le titre explique quelque chose, une autre histoire.
On écoute.
Enter one corner, shape you. Cause it be light and they tell me since I was a baby, you. All the time they go promise and fail you. You don't deal with the slim, then they shade you. They wanna tell you, tell you, tell you. Another story, you.
Another Story, Burna Boy featuring Manifest. Lilian Thuram est notre invité. Dans quelques minutes, il répondra aux questions des auditeurs leaders. Et avec lui, nous parcourons son nouvel ouvrage Pensée Blanche. Lilian Thuram, justement, Pensée Blanche n'est pas qu'un instantané de notre société, de ce qui se passe aujourd'hui. Mais pour comprendre le mécanisme du racisme, tu as souhaité revenir plusieurs siècles en arrière, par exemple, quelques siècles avant notre ère, en évoquant la démocratie grecque. Tu parles également de colonisation, de décolonisation. Tu cites Amilcar Cabral, merci pour lui. Et puis Christophe Colomb également. Justement, nous savons que Christophe Colomb était persuadé d'arriver en Inde, puisque c'était le but poursuivi, arriver en Inde par une autre voie maritime. Et les autochtones qu'il rencontre, il les appelle les Indiens, alors qu'ils ne sont pas Indiens, ils sont Aztèques, ils sont Mayas, ils sont Taïnos, ils sont Apaches, ils sont Comanches. Comment expliquer que l'erreur de Christophe Colomb soit encore là, dans les propos des uns et des autres? Comment, alors que nous savons qu'ils ne sont pas Indiens, pourquoi est-ce que cela continue? Est-ce là encore une pensée blanche?
Ça continue parce qu'on n'a pas changé de discours. Il est assez incroyable que lorsque je vais dans les écoles, et là aussi un peu partout dans le monde, vous demandez aux enfants qui est Christophe Colomb, et les enfants vous disent c'est celui qui a découvert l'Amérique. C'est d'une violence totale, ça nie les populations qui étaient déjà là-bas. Il n'y a pas très longtemps, en France, dans un journal très important, il était écrit qu'on fêtait les 528e année de la découverte de l'Amérique par Christophe Colomb. C'est juste incroyable.
D'écrire découverte.
En fait, ouais. Chacun de nous, nous sommes le fruit d'un conditionnement. C'est-à-dire que nous sommes le fruit d'habitudes. Et si vous ne questionnez pas vos habitudes, vous les reproduisez. Et donc l'idée du livre, c'est justement donner à comprendre qu'on peut regarder les choses d'une façon différente. Il faut questionner nos façons de voir et de dire. Par exemple, tout depuis du livre, je montre une carte qui est cette carte-là.
Oui.
Si vous la voyez.
C'est la vraie. Ce sont les vraies dimensions.
Ce qui est très intéressant avec cette carte-là, la première fois que je montre la carte aux enfants, elle dit Monsieur Thuram, la carte, elle n'est pas bonne, elle est à l'envers. D'ailleurs, un de mes fils m'a dit mais papa, il n'y a même pas la France. Et donc, je dis aux enfants voyons, les cartes traditionnelles que vous connaissez, effectivement, il y a l'Europe. Centre. Et ce que vous ne savez pas, c'est que l'Europe est agrandie, que l'Amérique du Nord est agrandie, la Russie est agrandie et la Russie paraît même plus grande que le continent africain. Et donc, je dis aux enfants que les cartes traditionnelles qu'on montre, en fait, ne respectent pas les vraies proportions selon les continents. Et ce qui est très intéressant, que ce soit les enfants ou les adultes, ils restent choqués. Et je leur dis, ne soyez pas choqués. Effectivement, comme vous oubliez que la Terre est ronde et qu'on peut la regarder dans n'importe quelle direction, vous finissez par croire que ce qu'on vous a toujours montré est vrai et elle seule est vraie. Voilà pourquoi multiplier les points de vue,
oui.
Pourquoi il faut questionner les points de vue pour pouvoir comprendre qu'il y a une complexité des choses. Et comme nous sommes, encore une fois, héritiers de l'histoire racontée, il est peut-être temps de raconter notre histoire.
La question...
Ça, c'est très...
Ouais, la question, Lilian.
Qui parle?
Oui. La question, justement, du Nord et du Sud. Et puis, c'est Livingstone qui disait que rien n'existe tant que le blanc ne l'a pas découvert. Et c'est pour cela qu'encore, on est dans cette pensée blanche, dans cet héritage. C'est-à-dire, on est encore sur la découverte, alors qu'on pourrait dire aujourd'hui, Christophe Colomb est probablement le premier Européen à avoir foulé cette terre.
Et ça change. Mais effectivement, c'est-à-dire que dans le livre, par exemple. Je demande aux gens, voilà, visualisez l'arrivée de Christophe Colomb dans les Amériques. Est-ce que vous visualisez l'arrivée? Dites-moi, vous êtes sur le bateau ou sur la plage? Mais l'histoire qu'on nous raconte nous positionne sur le bateau.
Oui.
Parce que les gens qui sont sur la plage ne racontent pas la même histoire.
Et évidemment.
Ils savent très bien que Christophe Colomb n'a pas découvert l'Amérique.
Ben non.
Et c'est exactement la même chose avec le continent africain ou d'autres parts dans le monde. C'est-à-dire, il faut toujours se poser la question, qui parle? Et d'où cette personne parle? Et si vous acceptez sans vous poser la question, c'est pas la chose la plus intelligente. Voilà.
Céline.
Dans cette discussion, on mesure le rôle prépondérant que doit jouer l'école en livrant une version plus honnête, finalement, de l'histoire. On n'en est pas encore là. Je pense que la route va être plus ou moins longue. À côté de ça, Lilian, toi, tu as ce projet d'exposition qui pourrait justement amener un nouvel éclairage de l'histoire. Où en est ce projet? Et est-ce que tu peux nous expliquer les résistances aussi que tu rencontres sur ce chemin-là?
Oui, c'est vrai qu'effectivement, depuis quelques années, Pascal Blanchard et moi, nous essayons de monter une exposition sur l'histoire des Noirs en France. Moi, ça me paraît essentiel parce que, pourquoi ? Parce que dans l'imaginaire collectif, on a toujours l'impression qu'être noir en France, c'est être illégitime. C'est-à-dire que vous pouvez passer plusieurs générations, mais on ne vous voit pas comme français, on vous voit comme noir, comme illégitime, comme dangereux. Et donc l'idée, c'est montrer qu'il y a très très longtemps qu'il y a des Noirs en France, qu'ils sont français, mais qu'en fait, il y a une condition noire, et la condition noire est liée à l'histoire du racisme. Et l'idée, c'est qu'on trouve des personnes qui veulent parler de l'histoire, c'est-à-dire on pourrait parler de la police des Noirs qui était au XVIIIe siècle, mais quand on arrive sur la réflexion d'aujourd'hui et dire que les personnes noires subissent encore le racisme, eh ben c'est plus compliqué. Alors, c'est-à-dire que pour moi, ça me paraît essentiel.
Oui.
Si nous voulons comprendre la réalité d'aujourd'hui, nous devons questionner le passé.
Lilian, est-ce que l'on peut dire que les mots « diversité » issus de l'immigration sont là justement pour garder en périphérie de la citoyenneté, d'être totalement français les uns et les autres ?
Et minorité visible,
et minorité
le plus
visible.
Horrible peut-être de tous.
Bah oui.
Mais écoutez, oui, effectivement, il y a toujours cette idée de construire des « nous » et des « eux ». Et quand on commence à construire des « nous » et des « eux », effectivement, il y a des gens qui sont illégitimes.
Ouais.
Et tous les jours, malheureusement, dans le discours médiatique, dans le discours politique, on ne se rend pas compte, mais effectivement, on crée ces catégories qui font qu'il y a certains qui sont français totalement et d'autres qui ne sont pas français totalement. Et donc, il faut en discuter sereinement, tranquillement, et dire aussi que nous ne sommes pas d'une grande naïveté, c'est-à-dire que nous sommes en capacité de voir aussi ce qui se passe dans la société.
Ouais.
Et j'encourage toutes les personnes de dire les choses. C'est comme ça qu'on avance. Parce qu'il ne faut pas oublier aussi que ces hiérarchies selon la couleur de peau a construit des peurs. C'est-à-dire que trop souvent, les personnes dites non-blanches sont dans une certaine crainte de dire les choses.
Et les choses s'accentuent en ce moment.
Et de faire aussi les choses. On limite nos horizons parfois.
Exactement. Et c'est ça la plus grande violence. Quand je dis de l'estime de soi, c'est-à-dire que si vous vivez dans une société où vous recevez des messages négatifs, vous finissez par croire que vous êtes incapable, vous. Et donc, il faut vraiment comprendre absolument l'histoire. Et pour moi, ce livre est fondamental parce que ça vous permet de comprendre, de clarifier les choses en disant... Moi, j'ai des amis qui ont lu le livre et me disent « Mais Lilian, c'est incroyable, j'avais pas vu les choses comme ça. » C'est-à-dire que maintenant que j'ai lu ce livre, je perçois les choses différemment.
Lilian...
J'ai un ami qui m'a dit, c'était très intéressant,
oui.
Il m'a dit « Ouais, ce livre, c'est un miroir. »
C'est ça, c'est exactement ça. C'est ce que on tentait de dire tout à l'heure, c'est vraiment un reflet de ce que sont nos sociétés, société humaine et la société occidentale dans laquelle nous vivons aujourd'hui, qui se refuse à elle-même d'ailleurs. Elle se refuse à certains, elle refuse certains talents qui sont là, qui ont pourtant germé dans cette terre-là. Lilian, on va essayer d'aller très vite, justement, puisqu'on évoque l'histoire. Le 21 mai prochain marquera le 20e anniversaire de la loi Taubira, 21 mai 2001. Tu participeras ce dimanche à un premier rendez-vous de célébration. Nous serons d'ailleurs ensemble. Est-ce que justement cet ouvrage, Pensée Blanche, avais-tu à l'esprit tous ces joueurs de foot à qui on lance des bananes, des cris de singe et une Christiane Taubira qui est caricaturée en guenon. Lorsque tu écris, est-ce que toutes ces personnes-là sont là présentes dans ta plume ?
Ben écoutez, bien évidemment. Mais je dirais que pour comprendre en fait ce livre, il faut revenir à mes 9 ans. Moi, je suis né en Guadeloupe, comme je vous ai dit tout à l'heure. J'arrive dans la région parisienne à l'âge de 9 ans. Et il y a des enfants de ma classe qui m'insultent de sale noire. Et en fait, je ne comprends pas. Je ne comprends pas cette violence. Je rentre chez moi, je demande à ma mère pourquoi les personnes noires sont vues de façon inférieure. Elle m'a dit qu'elle m'a donné une très mauvaise réponse. Elle m'a dit « c'est comme ça, les gens sont racistes, ça ne va pas changer ». Et en fait, pendant très longtemps, j'ai essayé de soigner le petit garçon que j'étais en essayant de comprendre le pourquoi du racisme, pourquoi on infériorisait les personnes noires. Et il y a quelques années de ça, je me suis retourné et j'ai regardé les enfants en fait qui m'avaient insulté. Et je me suis dit, tiens, à 9 ans, ils ont intériorisé qu'être noir était inférieur. Ils ont intériorisé qu'ils étaient blancs. Et ils ont intériorisé la conviction qu'être blanc, c'était mieux. Et donc, effectivement, lorsque j'écris ce livre, il y a les deux parties, c'est-à-dire les personnes qui peuvent subir le racisme et les personnes qui peuvent produire le racisme. Et je pense qu'il est temps d'apporter une nourriture intellectuelle qui permet de comprendre le racisme. Parce que beaucoup de gens se disent « il faut passer à autre chose ». Mais par contre, on ne peut pas passer à autre chose si vous ne comprenez pas la réalité du racisme. Et encore une fois, pour moi, ce livre, c'est un cadeau que j'aurais aimé que ma mère ait eu lorsque j'étais enfant, pour qu'elle puisse m'expliquer la problématique du racisme. C'est un cadeau qu'on aurait dû donner aux parents de ces enfants qui m'ont insulté, parce que quand vous comprenez les choses, vous pouvez vous libérer. La connaissance permet de se libérer des carcans. Et moi, je reste persuadé qu'encore une fois, nous reproduisons des habitudes sans en comprendre la violence. Lorsque moi, je discute avec certaines personnes qui pensent qu'on ne peut pas changer le racisme, c'est naturel, c'est quelque chose qui serait naturel. Non, le racisme n'est pas naturel, c'est une construction, c'est une volonté politique. Ça a un but économique et dès le départ, parce que les Blancs, les Noirs, les autres n'ont pas toujours existé. Et les gens sont persuadés qu'il y a toujours eu les Blancs, les Noirs. Non, c'est pas vrai. C'est une construction qui date.
Alors justement, Lilian, dans cette construction du racisme, il y a des épisodes de l'histoire, des crimes contre l'humanité, et je pense évidemment à l'esclavage et la traite négrière. Je voudrais que l'on écoute justement, en 2001, Christiane Taubira au micro d'Hélène Camouilly.
Fallait-il une loi pour reconnaître l'esclavage crime contre l'humanité?
Le Code noir, qui déclarait que l'esclave est un bien meuble, qui expliquait que le maître avait le droit, à la première fuite, de lui couper l'oreille et de le marquer à la fleur de lys. À la deuxième fuite, de lui couper le jarret et de le marquer à la fleur de lys. À la troisième fuite, de le mettre à mort. Ce code noir a séjourné dans le droit français pendant près de 2 siècles. Seule une loi solennelle, disant la volonté du peuple français, pouvait contrebalancer et dire très clairement que la France, fidèle à ce qu'elle représente dans l'imaginaire universel, fidèle à sa réputation de patrie des droits de l'homme, la France des Lumières reconnaît aujourd'hui que ce crime qui était légal, qui était officiel, qui était justifié également par des textes ecclésiastiques, ce crime était un crime contre l'humanité et en fait elle fait son travail de nation phare dans le monde en disant la première qu'elle reconnaît, qu'elle se désolidarise de ce crime et qu'elle reconnaît que c'était un crime contre l'humanité.
La France effectivement, Lilian, a reconnu, mais on entend aujourd'hui, on évoquait justement sur les plateaux de télévision, dans certains médias, ce qui se dit, et des propos abjects, du révisionnisme s'expriment sur les plateaux. Comment expliquer cela, alors que le sujet de l'esclavage et de la traite négrière sont des sujets centraux dans cette identité française qui est une identité plurielle? Est-ce de la méconnaissance ou est-ce justement ces résistances face à une France qui ne ressemblera plus à la France de 1900?
Vous savez, je pense que la chose la plus difficile pour un individu, c'est se remettre en question. Ça, il faut prendre conscience de ça. Et pour un pays, c'est exactement la même chose, parce que se remettre en question, c'est pouvoir se regarder dans un miroir et s'auto-juger. Et très souvent, lorsqu'on parle de la France, on ne prend pas conscience que la France a eu des lois racistes pendant plus de 250 ans. C'est-à-dire que lorsque vous prenez le Code noir 1685, lorsque vous prenez le Code de l'indigénat qui s'arrête dans les années 40, et ouais. Ben, c'est ça la France. Parce que très souvent, on finit par croire que le racisme d'État, c'est simplement les États-Unis, ce serait simplement l'Afrique du Sud. Non, notre pays s'est construit sur des hiérarchies selon la couleur de la peau et c'était inscrit dans les lois. Ouais. Mais malheureusement, il y a des personnes qui ne veulent pas être mis devant ces réalités. Ouais. Et je pense que pendant l'esclavage, les esclaves, en luttant, ont rendu meilleurs la société. Pendant la colonisation, les indigènes, comme on les appelait, ont lutté pour rendre le monde meilleur. Et encore aujourd'hui, nous devons le faire. C'est à nous, les personnes qui subissent le racisme, à rendre la société meilleure.
Lilian,
parce que oui. Lorsque vous êtes enfermé dans une pensée que vous êtes la norme, c'est extrêmement compliqué, en fait, d'être confronté à la réalité. Dans le livre, je fais la comparaison avec la caverne de Platon. C'est-à-dire que si toujours on vous a raconté l'histoire et quelqu'un d'autre vient vous dire « Mais attendez, vous savez que la France est construite sur le racisme ben, », la première des choses que vous faites, si vous n'êtes pas au courant, c'est refuser d'écouter parce que ça vous fait mal, quelque part ça vous blesse. Mais encore une fois, pour sortir de ces blessures, il faut se positionner en tant qu'être humain, pas français, pas de couleur de peau blanche, de couleur de peau noire ou d'autres choses. C'est comme lorsqu'on parle de la décolonisation. La décolonisation n'est pas une défaite pour la France, c'est une victoire pour l'humanité, c'est une victoire pour la liberté.
Et une réparation quelque part, un début de réparation, un début.
Et donc ça, c'est très important de comprendre que, effectivement, pour certaines personnes, c'est extrêmement compliqué de se confronter à la réalité. Voilà, il préfère dire que, par exemple, que le racisme se trouve aux États-Unis. Voilà. Ouais.
Lilian, on avait énormément de choses à dire, à entendre. Malheureusement, on n'écoutera pas Mario Canonge. Il y avait un quiz également sur Pensée Blanche. Si on a le temps, on va voir. Mais là, on doit donner la parole à nos auditeurs leaders. Et est-ce qu'on peut les recevoir? Oui. Peut-on les recevoir maintenant? Bon, d'accord.
La libre antenne.
Claudio, il y a le téléphone pour toi. Hein.
33 6 37 42 62 24.
Et le téléphone est pour Lilian Thuram, bien évidemment. On va retrouver à nommer Narcisse. Bonne arrivée, Narcisse. Alors, non, il n'est pas avec nous. Alors, on va retrouver Salahidine N'Djamena. Bonne arrivée, Salahidine.
Oui, bonsoir, Claudie. Bonsoir à tous les fans de Canal Tropical.
Ah, oh bah, tu remontes à 26
bonsoir,
ans en arrière.
Lilian Thuram.
Et Lilian, t'écoute. Faut poser la question maintenant.
Oui, d'accord. Ma question est simple. Pourquoi vous avez écrit ce livre? Et pourquoi vous avez choisi ce titre alors que nous, on a pensé que vous allez écrire un livre sur le football, un livre sur toute l'expérience que vous avez vécue dans le football?
Oui, mais peut-être que ce livre-là viendra, mais j'ai peur qu'elle ne vienne jamais. Hein. C'est-à-dire que écrire mes expériences sur le football, pour l'instant, j'y pense pas. Et donc, le livre, je l'ai écrit juste pour qu'on puisse comprendre l'histoire du racisme et pourquoi aujourd'hui cela existe encore.
Merci beaucoup, Samaldine. On va retrouver maintenant à Braza Rico Song. Rico, bonne arrivée.
Merci Claudie, merci Couleur Tropicale. Et bonsoir à Lilian.
Bonsoir.
Ma question est celle-ci. Quand vous dites que on ne naît pas blanc, on devient blanc. Je voudrais que vous nous expliquiez ça contextuellement.
Alors, ouais. Il a déjà bien expliqué, Lilian l'a bien expliqué. Alors la question de Rico, moi, elle me semblait plus précise et peut-être complémentaire. Devenir blanc, une question de mentalité, point d'interrogation.
Oui, mais de toute façon, oui, c'est comme je vous dis, c'est un positionnement. C'est-à-dire que lorsqu'on devient blanc, c'est que être blanc, c'est un positionnement, c'est être la norme. C'est être mieux que les non-blancs. C'est comme lorsqu'on vous dit « vous êtes noir », c'est qu'on vous dit « voilà votre positionnement ». Lorsqu'on dit à quelqu'un « vous êtes une femme », ça veut dire quelque chose. Parce que être une femme, c'est ne pas être un homme. Et être un homme, c'est avoir plus de droits et être plus légitime que la femme. Et dans toutes les cultures, la plus vieille hiérarchie qui existe dans nos sociétés, c'est la hiérarchie des hommes sur les femmes. Il faut quand même prendre conscience que notre espèce, c'est une espèce qui autorise les hommes à tuer les femmes quand même. Ça, et donc, c'est pour ça qu'il faut vraiment questionner les catégories, parce que ce n'est pas anodin lorsqu'on vous place dans une catégorie. Donc, voilà pourquoi il faut les déconstruire.
Ouais. Merci, Rico.
Merci. Amadou. Okay. Amadou à Dakar. Bonjour, Amadou.
Bonsoir.
On t'écoute.
Claudie. Bonsoir, Céline. Céline. Bonsoir, monsieur Liliane.
On t'écoute, Amadou.
Donc, ma question est la suivante. Comment vous avez pu gérer le racisme dans le terrain et hors du terrain depuis que vous étiez jeune jusqu'à présent? Et pourquoi nous n'avons pas notre Barack Obama jusqu'à présent dans l'Élysée?
Appel du pied.
Alors, tout d'abord, c'est une très bonne question. Vous savez, lorsque j'étais joueur de foot, effectivement, dans des stades, je faisais le bruit du singe. Mais en fait, je ne souffrais pas de ça. Pourquoi? Parce que je m'étais déjà éduqué à comprendre le mécanisme du racisme. Et lorsque vous comprenez le racisme, effectivement, vous savez que ce sont les racistes qui ont un problème. Ça, c'est fondamental. Lorsque vous comprenez les mécanismes du racisme, vous savez que vous êtes du côté de la vérité. Et comme vous êtes du côté de la vérité, vous pouvez dire les yeux dans les yeux à certaines personnes les vérités, que ça leur plaise ou non. Et c'est pour ça que je parle d'estime de soi. Et le racisme blesse cette estime de soi et finit par faire en sorte que vous vous sentez amoindri en pensant que vous n'avez pas le droit de dire ouvertement et fortement certaines choses. Et donc voilà pourquoi il faut absolument éduquer le plus tôt possible nos enfants à comprendre le mécanisme du racisme, pour simplement leur dire, voilà, tu es au monde, tu es du côté de la vérité, n'oublie jamais. Ouais. Et vous savez quoi? L'histoire, la vérité, en fait, ne meurt pas. C'est ça la réalité. C'est-à-dire que de l'autre côté, il va y avoir des guerriers qui sont là, ils essayent de figer l'histoire. Mais les guerriers meurent, la vérité non.
Mais oui, mais oui.
Merci Amadou.
Merci beaucoup Amadou. On va retrouver Gaousso. On va demander à Gaousso qui est à Créteil. Donc, question courte et réponse courte, Lilian, si possible.
On va essayer.
Je sais bien.
On va essayer.
Allez, Gaousso.
Bonjour. Tous mes grands respects à notre grand défenseur de l'humanité, Lilian Thiran. Mes questions.
Oui, une question.
D'accord. quel doit être le rôle des chefs d'État africains dans la lutte contre le racisme?
Ah ben c'est très simple. La première des choses, je pense qu'il faut apprendre le respect, que les populations se respectent et se regardent par leurs propres yeux, en fait. Et le problème, c'est que parfois, on a toujours tendance. Enfin, les présidents, parfois, j'ai l'impression, ont tendance à penser que la vérité ne serait pas chez eux. Et la première des choses, quand vous êtes un dirigeant, et peu importe votre pays, ben, c'est l'amour de votre peuple, en fait.
Voilà. Merci beaucoup, Gaousso. Adama, à Washington. Adama qui doit être heureux. Enfin, pas sûr, je ne connais pas ses opinions politiques. Mais c'est vrai. Mais oui, c'est forcément présomptueux. Mais enfin, on se dit qu'il est forcément dans cette liesse. Adama, bonne arrivée.
Bonsoir, Couleur Tropicale. Bonsoir, Claudie. Et bonsoir à ce grand monsieur Lilian Thuram. Ma question est tout simplement, c'est de demander quelle approche les peuples dominés peuvent utiliser pour se faire entendre, sachant que la problématique de discrimination est d'abord un problème humain, puisque l'homme est de nature plus ou moins sélectif et admiratif des faits sociaux à des degrés différents.
Alors,
J'ai pas très bien compris la question.
Sa question, c'est vraiment quelle approche, justement, doivent avoir les peuples opprimés hein, face à ce racisme, quand on sait que finalement le racisme est ancré dans les sociétés humaines.
Alors, tout d'abord, le racisme, c'est une volonté politique. C'est pas quelque chose de naturel. Ça, c'est très important à le comprendre. C'est comme les injustices qu'il y a dans les sociétés. C'est des directions politiques, à savoir est-ce qu'on va dans cette direction ou est-ce qu'on va dans d'autres directions. C'est pareil pour les inégalités. Après, la première des choses, vous savez, en tant qu'individu, c'est vous réapproprier l'histoire. Parce que nous sommes le fruit d'une histoire racontée selon un point de vue. Donc la première des choses, c'est effectivement questionner l'histoire et voir si cette histoire-là ne vous infériorise pas. Et donc, si elle vous infériorise, c'est la rejeter. Mais déjà, vous savez, les grands intellectuels des pays qui sont discriminés depuis des siècles ont toujours dit ce qu'il fallait faire, vous savez. Hein. C'est-à-dire reconstruire son histoire pour pouvoir développer une bonne estime de soi-même. C'est-à-dire qu'il y a dans certains pays des enfants qui apprennent des histoires qui n'ont pas de sens. Par exemple, ma mère a appris que ses ancêtres étaient des Gaulois. Ça n'a pas de sens, en fait.
Eh oui, évidemment. Merci beaucoup, mon cher Adama, qui était à Washington. Je voudrais que l'on écoute cette voix, cette chanson-là. C'est l'un des choix de Lilian Thuram, qui est encore notre invité.
You don't know how hearts burn for love that cannot live yet never die until your face stitched down with sleepless eyes.
Cher Lilian Thuram, c'est la voix de Karine Giok, journaliste que l'on retrouve à 12h45 sur M6 la semaine. Karine Giok qui a officié au sein de l'équipe de Couleur Tropicale sur RFI durant quelques années. Et il y a quelques années, que représente Karine Giok pour Lilian Thuram?
Ben écoutez, que représente Karine Giok? Une personne courageuse qui sert aussi d'exemple pour beaucoup de personnes, en fait. Et ça, c'est très important à le dire.
L'exemple. Et c'est vrai qu'il est important que nous ayons des exemples valorisants. Lilian le disait tout à l'heure, Céline, c'est vrai qu'on aurait eu besoin, nous aussi, alors de lire certains livres et d'avoir dans nos médias certaines personnalités.
Je voudrais vraiment l'illustrer parce que, bon, j'ai une petite fille, là-dessus, c'est pas ça le plus important, mais un jour, elle a vu Karine Giok, justement, présenter ce 12h45 et elle m'a dit bah, moi, j'ai bien envie d'être journaliste, maman. Alors que sa propre mère est journaliste. L'idée ne lui était pas venue à l'esprit. Mais là, en voyant, et parce qu'elle s'est identifiée aussi, et c'était très visible, il s'est passé quelque chose. Et c'est ce qu'il faut, c'est offrir des images, des imaginaires et des horizons illimités. Voilà. Et c'est aussi ce qui se passe avec Karine Giok, donc c'est important de le souligner.
Je voudrais juste, Lilian, également avoir une pensée pour une grande dame, une Guadeloupéenne. C'est Gerty Archimède, avocate de formation et qui, le 10 novembre 1948, fut par le peuple députée de la Guadeloupe. Voilà. Je voulais qu'on ait une pensée pour elle également.
Mais c'est vrai qu'on a besoin d'exemples. Et la première des choses pour devenir soi-même un exemple, c'est avoir une bonne estime de soi.
Ouais.
C'est-à-dire que les gens qui ont réussi, c'est parce qu'ils pensaient que c'était possible de réussir. Donc, il faut vraiment faire ce cadeau à nos enfants, leur dire voilà.
Lilian, je suis désolé, je bouscule, mais il nous reste encore trois auditeurs. J'aimerais vraiment qu'on les écoute et qu'on puisse leur apporter des réponses. Mayo, qui est à Dakar. Bonne arrivée, Mayo. Vite, tout de suite, maintenant.
Merci. Bonsoir, Claudie. Bonsoir, monsieur Thuram.
C'est Apollinaire.
Apollinaire.
Non, c'est... Oui, alors c'est Mayo ou Apollinaire?
Non, c'est Mayo.
C'est Mayo, voilà. Nous écoutons Mayo. Allez, Mayo, très vite.
Voilà. Face à la recrudescence des voyages en pirogue des jeunes Sénégalais qui tentent de regagner l'Europe et devant l'incapacité des autorités à apporter des réponses satisfaisantes pouvant redonner de l'espoir à la jeunesse du pays. Et vu votre aura personnelle, M. Thuram, auprès de cette jeunesse africaine, pour tout ce que vous avez représenté, seriez-vous d'accord de vous associer à des campagnes de sensibilisation auprès de cette jeunesse pour les inviter à tourner le dos à ces voyages périlleux? Parce que je suis convaincu que votre leadership peut aider pour un tel plaidoyer.
Oui. Lilian?
Ben écoutez, vous savez, je le fais déjà parce que dernièrement, nous sommes allés au Burkina Faso et nous avons rencontré des camps où est-ce qu'il y avait des jeunes garçons, des jeunes femmes qui revenaient de Libye, par exemple. Et donc, dès que je peux, je m'associe. Et là aussi, c'est le piège de penser que de l'autre côté, c'est mieux. Mais en même temps, aussi, ce sont les politiques de certains pays qui ne font pas le travail. Et ça aussi, il faut le dénoncer. Mais dès que je peux, effectivement, je dénonce. Et justement, ça explique aussi cette pensée blanche que de l'autre côté, forcément, c'est mieux.
Et oui, et les imaginaires, encore une fois. Merci beaucoup, Mayo. Ouaga, justement, Apollinaire est avec nous. Bonne arrivée. Et ça me permet quand même de dire, lorsque nous avons initié cette action de solidarité avec les Centrafricains victimes des inondations l'année dernière, lorsque j'ai appelé Lilian, il m'a dit tout de suite, oui, j'apporte ma voix à ce moment de communion pour être autour de celles et ceux qui souffrent. Alors merci Lilian, et on écoute Apollinaire.
Bonsoir Claudie.
Vite Apollinaire.
Bonsoir Lilian Thuram, c'est vraiment un honneur pour moi de vous parler ce soir.
Bonsoir.
Alors ma question est la suivante. Vous avez dit on n'est pas raciste, on le devient. Et moi j'aimerais savoir si à travers votre site vous avez... Vous êtes arrivé à toucher des personnalités influentes au niveau de l'éducation française, par exemple. Parce que je me demande, est-ce qu'on apprend aux enfants dès le bas âge que l'Afrique est le berceau de l'humanité? Est-ce qu'on apprend aux enfants que l'ancêtre de l'homme vivait d'abord en Afrique?
Oh, d'accord.
Parce que je me dis que si c'est la...
Oui,
si c'est
Apollinaire, la RTL, également... Apollinaire, je suis désolé, mais on a bien compris, si on veut entendre la réponse de Lilian, c'est maintenant. Il lui reste 30 secondes.
Ben écoutez, vous savez, il y a des choses qui s'apprennent effectivement à l'école. Et voilà pourquoi il faut s'intéresser de très près au programme scolaire et que les parents eux-mêmes doivent être attentifs à certaines choses et revendiquer des manques pour que les choses s'améliorent. Parce que l'État ne le fera pas tout seul, c'est ça en fait.
Merci beaucoup. Apollinaire, est-ce que Karl, malheureusement, ne pourra pas s'exprimer? Alors, Karl, la question que Karl voulait poser, se considérer comme citoyen avant de se considérer comme une personne de couleur, n'est-ce pas là la solution? Et c'est ce que Lilian Thuram a dit tout au long de cet entretien. Et c'est dans le livre La pensée blanche aux éditions Philippe Ress, c'est le nouvel ouvrage de Lilian Thuram. Vraiment, et Lilian, je tenais à dire, je ne retirerai pas une virgule, pas une ligne à cet ouvrage. Alors, pour certains d'entre nous, tout ce qui est écrit là est évident, et puis on apprend beaucoup de choses. On parlait d'histoire tout à l'heure, mais également ce décryptage sur ce qu'est cette société française et occidentale en crise identitaire. Alors infiniment merci, parce que c'est le chemin de l'éducation et de la pédagogie qui nous permettra d'avancer. Merci beaucoup Lilian Thuram.
Merci beaucoup.
Et puis un hommage à Eric Bruta, afro-caribéen de la Guadeloupe, qui justement est né un 9 novembre. Merci la famille.
Ça y est, il a cassé le moteur, c'est fini.